qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est toujours la préoccupation, en tout cas chez moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui seront là ce dimanche-là? Et on essaye d'écouter, mais c'est quand même l'écoute, c'est quand même pas toujours évident hein, qu'écouter le Seigneur. Cette semaine, il me réveille à 3h30. Donc je vais sur mon ordinateur et je commence à écrire et je commence à râler. En disant, tu peux pas choisir un autre moment que 3h30 de matin, je voudrais pouvoir dormir. Et je vous dis ça simplement parce que, qui que nous soyons, le Seigneur nous demande d'être disponible et disposé 24 heures sur 24. Donc, parfois, je dis au Seigneur dans ma prière, « Ah Seigneur, si tu veux que je prie pour quelqu'un de spécifique, je t'autorise à me réveiller la nuit. » Ah ouais, mais bon, forcément. Bon. Mais quand même, je vous dis ça, non pas pour que vous puissiez dire « Ah, Bernard, c'est bien, il se réveille à 3h30 pour commencer un message mais ou une prédication, mais c'est pour, justement, enfin, surtout pour vous dire, mais quel que soit le moment, restez disposés et disponibles entre les mains du Seigneur et de son Esprit. » Ce matin, je crois, comme tous les dimanches, le Seigneur veut parler à des personnes d'une manière précise ou plus précise. Si cet enseignement s'adresse à tout le monde, il s'adresse en particulier à des personnes qui sont concernées. Est-ce que c'est un enseignement prophétique? J'en sais rien, mais il faut qu'on aille plus loin. Je voudrais vous parler de Moïse, mais juste comme ça, en passant. Moïse, né d'une famille hébraïque, enfin, j'en sais rien, a été élevé par la fille de Pharaon, à la cour de Pharaon. Et il avait en même temps ce côté d'éducation égyptienne fort élevé. Et en même temps, il était tiraillé parce que en allant voir ses frères de sang, il les voyait comme esclaves. Et au Exode, chapitre 2, versets 11 à 15, je ne lis pas tout, mais je lis juste que lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Il frappa l'Égyptien à mort, il l'enfuit dans le sable. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse, mais Moïse prit la fuite. Moïse, à un moment de sa vie, a rêvé délivrer son peuple. Il l'imaginait, dans ses rêves et dans son imagination, alors je n'ai pas discuté avec lui, mais probablement qu'il disait, mais je souhaite que mon peuple soit libéré de l'esclavage et j'en ai les moyens. Sauf que si le rêve qui était le sien dans son cœur, dans son être. Il avait cela en lui, que le Seigneur avait mis en lui. J'ose l'affirmer. La manière et le temps pour le faire n'étaient pas le bon. Je ne sais pas si on peut dire amen, mais bon. Il avait reçu dans son cœur d'une manière... Il ruminait peut-être d'une manière secrète la délivrance de son peuple. Mais il n'a pas attendu le top départ du Seigneur, ni la manière dont il fallait le faire. Je voudrais vous parler donc ce matin des rêves. Des rêves que le Seigneur met dans nos cœurs. Mais dans ton cœur, ami en toi. Il y a d'autres personnages dans la Bible qui ont eu des rêves, c'est-à-dire qui... d'une manière secrète ou pas, mais porte un souhait, un désir, qu'on peut appeler ça, rêve. C'est un peu comme Martin Luther King, je fais un rêve, vous savez, hein, et puis il décline. Seigneur, fais de moi un instrument de ta grâce, de ta gloire, de ta puissance. Dans tous ces gens-là, je pense qu'il y a Gédéon. Gédéon qui était israélite et... Le peuple d'Israël était sous la coupe assujetti aux Philistins qui sans cesse les occupaient le territoire, mais pas seulement. Ils étaient obligés, quand ils faisaient des récoltes, de se cacher pour que les Philistins ne puissent pas voir que la récolte était bonne, parce que les Philistins venaient et prenaient les récoltes. Et sans nul doute, en tout cas de mon point de vue, Gédéon priait et disait au Seigneur, « Allez, il faut absolument, Seigneur, que tu nous délivres de ces Philistins. Agis, interviens pour que on n'ait plus à se cacher. Où est ta gloire, Seigneur ? Celle dont on nous parle. » T'as fait sortir le peuple de hébreu d'Égypte. La mer s'est ouverte pour que le peuple passe, etc., etc. Mais là, on est complètement assujetti à cette bande de gens qui nous font du mal sans cesse. Peut-être que dans ses rêves, Gédéon s'imaginait que le Seigneur allait le prendre pour le faire. Et puis voilà que, chapitre 12 du livre des Juges, l'ange vient, alors qu'il était en train de battre le blé en cachette pour ne pas se faire entendre. Et voilà que l'ange vient et puis lui dit « Salut à toi, vaillant héros. » Vaillant héros, c'est n'importe quoi. Il était en train de se camoufler, de se cacher. Et surtout pas trop de bruit parce qu'ils vont entendre, ils vont piquer ma récolte. Je l'imagine, je le vois en train de le faire, de faire doucement, pas de bruit. Et là, l'Éternel lui dit, vaillant héros, n'importe quoi. Et il dit, Gédéon dit, ah, mais mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et le Seigneur dit, ben, tu vas, tu délivres Israël. Et Gédéon dit, ah, mais mon Seigneur, avec quoi je vais les délivrer? Voici ma famille est la plus pauvre. En Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Je ne vais pas prêcher là-dessus, mais il a un problème d'esprit d'infériorité. Il est le plus petit des plus petits des plus petits. Enfin bref, il n'en reste rien, quoi. Lui qui, comment dire, avait imaginé, ou s'était imaginé, ou avait rêvé d'être celui qui allait délivrer Israël des envahisseurs, voilà que l'Éternel vient et lui dit, allez, top départ, je suis d'accord avec toi. Bah, ah, Seigneur, au secours, n'importe quoi. Comment je peux le faire? Je suis petit. Mais est-ce que c'est pas un rêve que tu avais? Est-ce que t'as pas rêvé ce moment où je viens te dire, ah oui, mais entre, Seigneur, le rêve et la réalité, et le fait de devoir me mettre en route, Seigneur, ça fait deux, quoi. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas le mieux placé. Moi, rêver, ça marche. Me mettre en route, c'est autre chose. Seigneur, je me suis imaginé, j'ai rêvé être libérateur, mais je n'en suis pas capable. On pourrait parler de Jonathan, fils de Saül, le roi. Lui aussi, il a rêvé probablement qu'il allait gagner. Mais lui, au moment où, à un moment donné, il fallait, dans la guerre, toujours contre le même peuple, il fallait y aller. Il était tout seul avec le gars qui portait ses armes. Et dans 1 Samuel 14, verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Lui aussi, il a rêvé. Il rêvait aussi de délivrance et d'être, instrument de la délivrance. Et au moment où c'était opportun, le Seigneur lui met à cœur de dire, mais même si vous êtes deux, à deux, vous allez provoquer la victoire. Ça paraissait incompréhensible, enfin impossible en tout cas. Il a rêvé et le Seigneur a agi. Je n'ai pas le temps pour vous parler du roi David, de Zorobabel, de Néhémie, de Saul de Tarse, habité d'un désir pour Dieu, différent, mais porteur d'un désir pour Dieu. Alors je veux juste m'arrêter un moment sur Marie, la mère de Jésus. Parce que quand même, dans la Bible, il n'y a pas que des mecs qui rêvent. Hein? Il y a aussi des femmes, des sœurs. Alors faut le dire. Hein? Et des enfants aussi. Le texte ne nous dit pas... Mais il est fort possible que, avant d'être enceinte de Jésus, Marie ait été enceinte d'un projet, d'un désir de projet. Seigneur, si tu veux faire avec moi ta servante, si tu veux me prendre et faire en sorte que naisse, alors peut-être pas le Messie, mais au moins quelqu'un ou un enfant qui va nous délivrer de l'oppresseur romain. Parce qu'à l'époque, c'était ça. On attend le Messie, pas celui qui nous emmène au ciel, mais celui qui nous délivre des Romains. Elle était peut-être enceinte d'un rêve. Seigneur, fais de ta servante le moyen par lequel la délivrance arrive. Lorsque on lit le cantique qu'elle chante dans Luc au chapitre 1er, elle fait référence à plusieurs textes bibliques. C'était une jeune fille pieuse, en tout cas qui connaissait la parole, qui avait de l'amour pour Dieu et de la foi. Dans l'Ancien Testament, en particulier, mais pas seulement, mais en particulier, on s'aperçoit que Dieu prépare les hommes et les femmes et les situations. Par exemple, le peuple était sous l'oppression d'un envahisseur. Ah, je trouve que c'est toujours complètement dingue, cette histoire. Au lieu que le Seigneur dise, ben, tiens, toi, vas-y, tu y vas, le Seigneur, il dit, bon, ben, on va prendre une femme, on va lui permettre de donner naissance, et quand il sera grand, il va délivrer le peuple. Et moi de dire, mais tu peux pas prendre déjà quelqu'un qui existe, au lieu de faire en sorte que y a une femme, il faut attendre que son mari ait des relations avec elle, qu'elle soit enceinte et que le gamin grandisse. Punaise, mais ça fait 20, 25, 30 ans peut-être d'attente. Seigneur, tu peux pas faire autrement. Moi, des fois, j'ai envie de lui dire, attends, je te conseille de faire autrement, Seigneur. Mais bon... Donc c'est vrai pour Samson, c'est vrai pour le prophète Samuel, c'est vrai pour d'autres. On a l'impression que effectivement le Seigneur prépare. Et d'ailleurs, ça, j'ai pas la référence parce que ça me vient là à l'idée, mais il y a un texte dans le Nouveau Testament qui dit que à un moment déterminé par Dieu, Jésus-Christ, le Père a suscité Jésus-Christ. Et des fois, on se dit mais pourquoi Jésus n'est pas arrivé un siècle ou deux siècles avant ou un siècle ou deux siècles après? Ben c'est parce que Dieu a un timing et c'est toujours le bon, même si nous ne le comprenons pas. Nous avons lu, ou peut-être pas, mais que ce soit Gédéon ou... pour Marie, le Seigneur leur dit à l'un et l'autre, n'aie pas peur. Il y avait quoi avoir peur? D'ailleurs, la peur, c'est plutôt bon signe. Parce que Moïse, lui, n'avait pas peur et il a bricolé quelque chose et il a dû s'enfuir. C'est un échec. Il s'est planté. Et il a fallu qu'ils partent dans le désert pendant des années jusqu'à ce que peut-être il perde toutes ses illusions sur lui-même et sur sa possibilité d'être quelque part sauveur de son peuple en esclavage. Et c'est quand il a perdu toutes ses illusions sur lui-même que le Seigneur vient pour lui dire « Allez, maintenant tu retournes en Égypte et tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire ». Et là, il dit, oh, tu n'as qu'à prendre quelqu'un d'autre. Ah, non, 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 mais maintenant tu es prêt. Avant, tu n'étais pas parce que tu étais rempli de toi-même. Tu étais rempli de ta force, de ta manière de voir. Maintenant que tu es complètement dépouillé de cette idée-là, eh ben, maintenant je considère que tu es prêt et va faire ce que je te demande. Mais Moïse, le temps est passé, Seigneur, je veux plus, mais si. Tu es porteur d'un projet que moi-même j'ai mis dans ton cœur et dans ta vie. Tu rêves de servir le Seigneur et les hommes? C'est super. Laisse-moi juste te dire que tant que tu as de l'orgueil de penser que Dieu t'a choisi et que c'est par toi qu'il agira sur tout, ben, tu resteras, comme Moïse, un peu en rade. En discutant avec Denis Drugeot, qui est venu il y a peu de temps, habitant chez nous, on a pu discuter pas mal de fois. Lui, il nous disait à nouveau, combien de fois j'ai fait l'erreur lorsque je suis passé dans certaines églises ou j'étais dans certains mouvements, combien de fois j'ai fait l'erreur de dire à tel ou tel jeune, par exemple, que le Seigneur allait lui confier tel ou tel ministère. Le Seigneur te dit, tu seras apôtre, tu seras prophète, tu seras pasteur. Et il dit, je manquais de sagesse et maintenant je ne le dis plus. Et il ne le dit plus parce que les personnes, il s'est rendu compte que les personnes à qui il le disait prenaient ça comme si c'était aujourd'hui ou demain, ou peut-être après-demain. Et ils allaient, pour certains, voir leur pasteur en disant « Ça y est, le Seigneur m'a donné un ministère apostolique ou autre chose. » Et le pasteur disait « Bon, ok, mais calme-toi, on va y aller. Ouais, tu, pasteur, t'es incrédule, tu crois pas dans la parole que j'ai reçue de la part du Seigneur, etc. » Puis ça faisait... plus de mal que de bien, quoi. Les gens se sentaient tout de suite investis. Et souvent, ces personnes, le Seigneur les a conduits dans le désert. Parce que entre le temps où il y a une parole prophétique qui est donnée et le temps où elle se réalise, je dis bien, il y a du temps qui passe. Pour de la formation, pour intégrer les choses et à vouloir faire comme Moïse, tout de suite, allez, je mets en place, les gens croient pas en moi, mais toi, Seigneur, t'y crois et j'y vais quand même. Ah ouais, mais ça fait des dégâts. Et le Seigneur est obligé de mettre les gens pendant un temps dans le désert. Pour revenir à Marie ou à Gédéon, l'un et l'autre, et en particulier Marie, mais Seigneur, comment est-ce possible que je sois enceinte parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme, même pas avec Joseph qui est mon fiancé. Seigneur, tu me dis que... Mais comment est-ce que les choses vont se passer? Certes, c'était chez elle, probablement, comme Gédéon ou d'autres, un rêve, une aspiration. Mais de là à vouloir vivre les choses concrètement, ça devient un tout petit peu plus compliqué. On peut toujours rêver, on peut toujours imaginer, on peut toujours faire des projets... avant de dormir et de dire « Waouh, Seigneur, ce serait super !» Mais waouh, quand il s'agit de mettre les choses en œuvre, ça devient plus compliqué. Mais le Seigneur dit « Il n'y a pas de souci. Moi le Seigneur et moi l'Esprit Saint, on sait faire. Marie, tu connais pas d'homme, mais... pour nous, c'est pas un problème. Hop. Le Saint-Esprit vient, il te couvre de son ombre et tu vas enfanter. Pas un problème. Rien n'est impossible pour Dieu. Sauf peut-être de se manifester dans nos cœurs et dans nos vies si nous sommes trop orgueilleux et trop remplis de nous-mêmes. La manière dont le Seigneur fait, et Gédéon, c'était ça, il n'y a pas de souci, on va faire. On te demande d'être disposé, disponible, assez humble, pour que ce soit nous qui puissions faire au travers de ta vie. Si je résume, je dirais que ce matin, le Seigneur souhaite dire à quelques-uns et à quelques-unes, j'ai mis en toi un projet dans ton cœur. Tu l'as secrètement ou non, mais tu l'as en toi, tu le nourris. ça devient de plus en plus oppressant, étouffant, ça bouillonne. Tu as l'impression que ça va exploser. Je pense aux femmes enceintes. Lorsque je vois des femmes enceintes arriver à leur terme de grossesse, généralement elles ont un gros ventre, avec l'impression qu'il n'y a plus de place. Ça, plus de place. Ça va exploser. Et surtout l'été, vivement que j'accouche, parce que j'attends tellement cet événement-là. Parfois, l'attente paraît interminable et c'est frustrant lorsque le Seigneur met des choses, des rêves dans nos cœurs et qu'on ne les voit pas se réaliser malgré les années qui passent. C'est frustrant, c'est interminable, c'est long. Je ne sais pas à quelle occasion je disais que... Je parlais des lapins qui étaient qui proliféraient. Alors vous avez ri, donc je vais pas prendre les lapins, je vais prendre les hamsters. Non. Jour de gestation avant de mettre bas pour les hamsters, c'est 16 jours. 16 jours de gestation, c'est assez court, hein. Alors que pour l'éléphant, c'est 630 jours. Ça fait beaucoup plus long, hein. C'est entre 20 et 22 mois. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que... pour un projet ou un rêve de plus grande envergure, il faut plus de temps. Plus de temps pour préparer, pour se préparer, pour être préparé, pour être formé. Il y a des choses que le Seigneur met dans nos cœurs et demain après-demain, on peut le faire. Il y a d'autres choses qu'il met dans nos cœurs et dans nos vies comme rêves et là, il faut beaucoup plus de temps. C'est pas pareil le temps entre la gestation du hamster et de l'éléphant. Quel rêve? Quel est ton rêve? Quel est le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur, que tu gardes peut-être secrètement? Tu n'oses pas le dire, parfois pas au Seigneur, de peur d'être orgueilleux. Orgueilleuse, pas le dire aux autres non plus, peur que ça vienne de toi, peur que ce soit trop gros et impossible, parfois accompagné d'une certaine dose d'incrédulité. Ouais, Dieu peut faire, mais avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Dieu peut faire, parce que rien ne lui est impossible. Mais Seigneur, prends quelqu'un d'autre. C'est ce que, à un moment donné, Moïse a dit. Écoute, prends quelqu'un d'autre, quoi. Parlons de Moïse. Tu veux que j'aille voir Pharaon pour lui apporter ta parole alors que je bégaye? On ne peut pas prendre quelqu'un qui soit moins hésitant sur et qui ne fourche pas. Je crois que le Seigneur est en train de dire à certaines personnes, plus particulièrement, il le dit à l'ensemble, mais il le dit plus particulièrement à certaines personnes. Je te dis, je te redis, tu as bien entendu ce que je souhaitais faire au travers de ta vie. Je t'ai mis enceinte de projets qui vient de moi, et c'est l'Esprit Saint qui te le dit. J'ai implanté chez toi un projet afin que tu le portes, afin qu'il prenne de la place en toi, que tu te prépares spirituellement, psychologiquement, ou en famille, que sais-je. Je prépare la venue, l'accouchement de ce projet. Mais forcément, avant de venir, au jour, l'enfant doit, dans le ventre de sa mère, être formé jusqu'à ce qu'il soit apte à sortir. J'ai mis l'ADN de mon projet en toi, afin qu'il voie le jour, afin qu'il réjouisse mon cœur et le tien, afin qu'il me glorifie, mais persévère dans la foi, dans la confiance, dans la formation, jusqu'à ce que ce projet dont tu es enceinte voit le jour. Comment est-ce possible? Comme pour Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le Saint-Esprit qui va initier les pas et le chemin pour toi, ce à quoi il t'appelle. Il va le mettre en œuvre selon son heure à lui, son timing, le sien. Et Marie, alors, de dire à l'ange, je suis l'esclave du Seigneur. Certaines traductions sont plus gentilles en disant je suis la servante, mais l'étymologie, c'est ça, je suis l'esclave du Seigneur. Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ok, Seigneur, c'est toi qui décides. Et si toi tu décides, moi je dis oui. Certains, en m'écoutant, disent « C'est foutu, j'ai raté le coche. » Ce n'est plus tout à fait ce que le Seigneur veut que je fasse, ou ce qu'il a mis dans mon cœur, ben voilà, c'est trop tard. Je suis passé à côté, et le Seigneur est en train de te dire, mais même si tu as l'impression d'être passé à côté, le Seigneur rattrape les choses. Pour certains, effectivement, c'est passé à côté, mais ce n'est pas parce que c'est passé à côté que c'est foutu pour tout le temps. Il va changer, réorienter les choses, de sorte que tu sois porteur de vie et porteur de ses projets. Ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Toi qui es plus jeune, plein de vigueur, laisse le Seigneur mettre un mort dans ta bouche, vous savez, comme les chevaux, afin qu'il soit conduit, dirigé, docile. Les chevaux ont besoin d'entendre la voix du cavalier qui les emmène à gauche, à droite, qui passe les obstacles, etc. Si le cheval est trop fougueux, il n'est pas tout à fait apte. Et le Seigneur dit à certains jeunes, « Je vais faire, mais laisse-toi conduire, laisse-toi faire. » Si je suis un peu plus direct, je dirais, Annie, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Tu croyais que tu étais passé par le désert, disant, c'est foutu. Ce qu'il a mis dans mon cœur, je ne vais jamais pouvoir le vivre. Le Seigneur te dit, j'en ai pas fini avec toi. Et tu es porteuse de quelque chose que j'ai mis en toi. Et je vais me manifester dans ta vie pour que ma gloire puisse se manifester au travers de toi. Tu te dis, ah ouais, mais Moi, je souhaite pas trop qu'on me voie. Tu te camoufles un peu comme Gédéon. Le Seigneur dit, mais moi j'ai vu et je connais ton cœur. Et je vais faire en sorte que les choses qui t'ont été volées puissent être récupérées d'une autre manière, mais quand même. Fabien, le Seigneur te dit qu'il voit. Il a vu. Et là aussi, il dit, je suis porteur de vie. Je suis porteur de l'action de l'Esprit Saint. Les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais pensé, imaginé, peut-être souhaité. Et il dit, mais ma manière de faire est préférable à la pensée qui était la tienne. Parce que je vois les choses du haut du ciel et je connais les temps et les manières de faire. Et le Seigneur dit un peu la même chose. Ce dont tu es porteur a été placé par moi dans ton cœur, dans ta vie. Tu es enceinte d'un projet qui semble fou, orgueilleux, etc. Mais le Seigneur dit, moi je sais, moi je connais, moi je sais ce que j'implante dans le cœur des uns et des autres. Et je n'en ai pas fini. À Franz aussi, Franz te dit, mais tu as des choses dans ton cœur et tu te dis, mais je fais rien, je suis rien, Et le Seigneur dit, mais laisse-toi prendre, laisse-toi saisir. Va, avance, avec humilité, mais quand même avec audace, parce que tu as trop de réserves. Tu es trop réservé par rapport à ce que le Seigneur te donne. Donc va, il faut y aller maintenant, quoi. Il faut se lever, il faut y aller. Je voudrais qu'on cherche mon petit-fils, Ethan, parce que j'ai une parole à lui donner. Seigneur dit, mais tu sais ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie. Tu sais de quoi tu es porteur. Joby, le Seigneur te connaît par ton nom, il connaît ta sensibilité, il connaît tes capacités. Il dit, mais moi j'ai déjà tout prévu. J'ai déjà planifié les choses. Et donc je ferai. Selon ce que j'ai décidé de faire, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que ce qu'il a décidé de faire en toi et au travers de toi, il l'a décidé avant que la terre ne soit formée. Et il dit, je vais faire. Nicolas, il ne t'a pas oublié. Des fois, tu trépignes, ça ne va pas comme tu veux, ça ne coule pas, hein. C'est un peu hard, il est difficile, mais le Seigneur dit, moi je suis Dieu. Ah, c'est juste ça, je suis Dieu. Il le dit aussi à Jean Didier. Moi je sais, il dit. Oh. C'est depuis longtemps, le Seigneur dit. Et quand il te regarde, il sourit. C'est pas un sourire où il se fout toi, mais il sourit avec de la bienveillance et en disant, mais moi je sais où je veux t'emmener et je prépare les choses. Ethan, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Il y a deux textes dans la Bible qui, peut-être plus, mais en tout cas, il y a deux textes dans la Bible qui parlent de toi. Je ne sais pas si tu les sais, mais ou tu les connais. Le premier, c'est dans le livre des Rois. Je te donnerai les références après, si tu veux. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Salomon, c'est un roi avec une sagesse extraordinaire. ça surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, même plus sage qu'Étan. Il dit. Ça veut dire que Étan, là, il avait une sagesse extraordinaire parce qu'il est cité en référence. Si Salomon avait plus de sagesse, ce Étan-là, il avait une sagesse vraiment particulière, très sage. Une sagesse donnée de la part de Dieu. Et puis, dans le psaume 89, c'est un psaume, c'est un poème d'Étan. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, Étan. Étan, ça veut dire durable, permanent. Comme si les choses t'étaient données d'une manière permanente. C'est pas un feu de paille, c'est quelque chose qui dure, qui est solide, qui est fort. Et ce Étan dans le psaume, c'est le même Étan. Ce Étan dit « Je chanterai toujours les actes bienveillants ou les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. » En fait, le Seigneur est en train de te dire, voilà ce que je veux pour toi, Étan. Je vais te donner une sagesse particulière, même si aujourd'hui tes profs disent que tu es une énigme. Étan est une énigme, mais pas pour le Seigneur, parce que le Seigneur sait, il connaît. Tu reçois et tu vas recevoir une sagesse. Et le Seigneur souhaite que tu chantes ses actes de bonté et de bienveillance. Et il veut mettre dans ta bouche des paroles qui fera connaître sa fidélité de génération en génération, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi et au fur et à mesure tes enfants et tes petits-enfants, peut-être tes arrière-petits-enfants. Donc, ayant reçu ça, j'espérais que tu viennes aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident pour lui, quand les parents ne viennent pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me mets ça à cœur, ça veut dire, parce que ce n'est pas d'hier que j'ai ça, c'est de cette semaine. Avant que je sache que tu avais envie de venir, j'ai dit, ben Seigneur, je le note, si Étan vient, alors on fera une onction d'huile pour te marquer, et je vais demander à Fabien et puis à Daniel de venir, et puis on va faire une onction d'huile. Alors je demande à Fabien et à Daniel, parce que Daniel et moi, nous sommes ses grands-parents, et Fabien est son oncle. Et on va demander, en présence de l'Église, une onction sur Étan. Alors, on pourrait faire une onction à tous ceux qui ont été désignés, mais il y a des personnes dont je n'ai pas parlé ce matin, ou que je n'ai pas cité, mais voilà, comme Luc Anaël, ouais, t'es dedans, là, dans les projets, là. Et le Seigneur va te mettre enceinte. Enfin, un peu bizarre comme ça, hein, pour un mec, hein, mais il va te mettre enceinte de ses projets à lui, les siens. Les siens. Et ce sera des fois un peu étouffant. Voilà, je vous invite avec nous à prier pour Étan. Seigneur, c'est pas pour rien que, et c'est probablement inspiré par toi, que Étan porte ce prénom. En tout cas, nous attestons et nous proclamons qu'il en soit ainsi, même si ça n'a pas été le cas et qu'ils ont trouvé que c'était bien, original. Au travers de cette onction d'huile, nous ordonnons que la signification de ce prénom soit son partage dans sa vie. Et qu'effectivement, tu donnes à Étienne, à Ethan d'être permanent, d'être solide, d'être constant. Qu'il y ait dans son cœur de l'ADN de ton projet, celui de proclamer ta grâce au travers de la louange, de l'adoration, même si, je ne sais pas si c'est chanté ou pas, ce n'est pas le problème. Mais je te prie vraiment pour que de génération en génération, ou pour les générations, il proclame ta fidélité, ta grandeur, tout autour de lui. C'est pourquoi nous te le remettons et nous ordonnons qu'il y ait une onction de ton esprit sur sa vie, onction de Dieu. Viens en lui, viens sur lui maintenant. Qu'il y ait une onction du Saint-Esprit sur lui. Je demande à ce qu'il soit rempli de l'Esprit-Saint. Je demande à ce que dans les jours ou les semaines qui viennent, il parle en langue et soit saisi de ton esprit, par ton esprit, et que ta vie surnaturelle prenne sa place en lui, et qu'il puisse dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que ce soit l'Esprit qui le saisisse et que Ethan puisse, au fur et à mesure, apprendre ta voix, à reconnaître qui tu es, à entendre de ses oreilles et des oreilles de son cœur ce que tu veux faire en lui et au travers de lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne une onction de l'Esprit-Saint sur sa vie. Et l'implantation de l'ADN de la vie du Christ, et qu'il soit et qu'il devienne enceinte de tes projets, ceux que tu as formés, pas seulement pour lui, mais au travers de lui. Au nom du Christ. Alléluia. Vas-y, dis, tiens, comme ça tout le monde entend et dit oui.
Mais toi tu m'entends, donc ouais. C'est principal. Non, je voyais des sources d'eau vive qui jaillissaient, des anciennes sources, je voyais vraiment plusieurs puits. Il y a des choses anciennes qui vont remonter à travers toi, il y a des promesses anciennes, je pense même qu'ont été faites dans notre génération, dans cette famille. Et je pense que tu vas être porteur de promesses de cette famille. Il y a quelque chose sur toi qui va porter justement avec durabilité, avec solidité, avec constance. Et tu vas chanter les promesses qui s'accomplissent et qui ne sont pas vaines. Sois béni, Ethan. Ouais.
Moi, je te remercie, Seigneur, parce que tu entends nos prières. Tu réponds à nos prières, Seigneur. Et je te loue. Parce que je sais que Ethan va être un instrument entre tes mains pour ramener d'autres personnes dans ta maison, ses parents, ses grands-parents. Seigneur, qu'ils puissent vraiment être imprégnés, chaque cellule de son corps puisse être imprégnée de toi, pour que ceux qui l'entourent puissent voir qu'il y a quelque chose de changé, Seigneur. Nous le croyons parce que tu le fais aujourd'hui. Et je te bénis de ce que tu vas faire au travers de lui. Amen. Amen.
Alléluia. Voilà, que le Seigneur conduise, dirige. On va terminer par un chant. Que le Seigneur vous bénisse. Avec Daniel, nous partons cet après-midi pour une semaine. On va en Bretagne se retaper un tout petit peu, si on peut dire. Voilà, je vous invite à vous lever, on va chanter et remercier le Seigneur pour qui il est, pour sa fidélité.